Mémoire d'une aveugle, neuvième partie. Chapitre 41. Le chevalier aimait tant cet aimable Aïssée qu'un jour il arriva chez moi. Je ne l'avais pas vu depuis une semaine, il se tenait en retraite, et me dit tout brusquement « Madame, je viens vous consulter ». « Me consulter, moi ? Beaucoup de nos amis diraient que sans doute vous voulez faire une sottise ». « Une sottise. Ne me dites pas que c'est une sottise. J'y réfléchis depuis si longtemps. » « Les sottises réfléchies sont les plus grandes. » « Enfin, madame, je ne vis pas ainsi. Vous avez remarqué probablement qu'Aïssée dépérit à vue d'œil. En savez-vous la raison ?»« Mon cher chevalier, on prétend que vous vous aimez trop tous les deux. » « C'est bien là le monde. Nous ne nous aimons pas trop. Pourrait-on trop s'aimer ? Nous nous aimons comme nous ne devons pas nous aimer, voilà tout. Je l'attends, elle va venir, et nous parlerons de cela ensemble, ici, devant vous. Monsieur, vous êtes un vrai sphinx. Oh, si vous aimiez comme j'aime, vous auriez déjà compris que je ne songe qu'à épouser Aïssée. C'est un grand parti. C'est le seul. Ma fille aura un nom et une mère avouée. Je dois cela à mes sentiments pour elle. Et pour ma chère amie, je le ferai. Alors, vous n'avez pas besoin de conseils. Madame, vous qui connaissez Aïssée, croyez-vous que je puisse trouver mieux? Non, pas comme amie et comme maîtresse, mais comme femme. Ah oui, elle n'a pas de bien, elle est esclave, elle est fille de je ne sais qui. Vous voilà comme Rion qui fait le fier à cause de sa princesse et qui prétend que la famille ne me le pardonnera jamais. Je ne dis pas le contraire. Vous êtes désolante. Et la famille n'aura pas tort, qui plus est. Pourquoi épouser Aïssée? Que vous en reviendra-t-il? Allons, madame, vous ne me comprenez pas. Je voudrais qu'elle vînt, et vous verriez si vous aviez des yeux. Mon pauvre chevalier, l'amour vous tourne la tête. Vous irez aux petites maisons. Le fait est que le mariage avec cette bonne Aïssée ne l'aurait conduit à rien de plus que ce qu'il avait déjà. Quant à elle, c'était autre chose. Elle y gagnait tout ce qu'elle n'avait pas. Elle vint, la chère fille, et je la trouvai pâle et changée. Son charmant sourire était triste. Elle se montra pourtant bien heureuse de voir son chevalier. « Regardez-la, madame, et comprenez-moi maintenant. Il me semble qu'elle souffre, en effet. Non, je ne souffre pas, je vous assure. Je suis contente, bien contente. N'est-il pas là ? Je n'y suis pas toujours, ma chère Aïssée. Voilà ce qui nous mine l'un et l'autre. Il faut que j'y sois toujours, et c'est de cela que nous allons parler. » « Eh, mon pauvre chevalier, pouvez-vous refaire le passé ?»« Non, ma reine, mais je puis arranger l'avenir. »« Hélas, comment cela ? J'ai des protections en cour de Rome, et je me rendrai libre. »« Après ?»« Après, j'apporterai à la souveraine de mon cœur toute ma vie, tout ce que je possède. »« Je lui demanderai en échange de rendre indissolubles les nœuds qui nous unissent. » et de devenir ma femme bien-aimée, comme elle est déjà la maîtresse la plus respectée et la plus chérie. Jamais je n'oublierai l'expression du visage d'Aïssée lorsque le chevalier prononça ces mots. Elle le regarda avec une tendresse, une joie, un orgueil ineffable, et resta quelques instants sans répondre, comme pour savourer un bonheur qu'elle ne retrouverait plus. « Ah, mon cher chevalier » dit-elle. Et deux larmes coulèrent sur sa joue, lentement, comme deux perles glissent. Elle ne les essuya pas. « Vous consentez, n'est-ce pas ? Je ne sais pas pourquoi je vous le demande. Est-ce que vous pourriez refuser ? Vous m'aimez ? Dieu sait si je vous aime, chevalier, et c'est justement pour cela que je refuse. « Vous refusez ? M'écriai-je. « Vous ne refusez pas !» continua le chevalier qui crut avoir mal entendu. « Je refuse, madame. Je refuse, mon ami. » Je pensais qu'ils étaient fous tous les deux, fous à leur manière, mais je me gardais d'intervenir dans cette affaire-là. Il est des choses dont on ne se mêle point. « Ma chère Aïssé, ne dites pas que vous refusez mon bonheur, je ne le croirai jamais. » « Vous aurez raison de ne pas le croire, mais votre malheur, je n'y consentirai point. »« Aïssé, ma chère Aïssé !» Il pleurait, lui le brave, l'intrépide, lui que les canons et les épées n'auraient pas ému un instant. « Mon Dieu, que les grands cœurs sont faibles devant leurs sentiments !»« Ne vous affligez point, chevalier !» Dieu m'est témoin que chacune de vos larmes m'est plus cruelle qu'un coup de poignard. Rien ne me séparera de vous tant que je vivrai, que votre volonté à vous-même. Que vous faut-il de plus? Il faut que vous m'apparteniez devant les hommes, comme vous m'appartenez devant Dieu. Il faut qu'aucune volonté humaine ne puisse nous séparer. Il faut que je sois sûr d'être heureux toujours comme je le suis à présent. « Seriez-vous assez cruel pour me repousser ?»« Mon chevalier, vous raisonnez en amoureux de 15 jours !» reprit-elle avec ce sourire si doux et si triste du dévouement et de la tendresse. « Si je vous épousais, vous donneriez votre nom à une esclave, à la fille d'un chamelier, à une créature accusée partout d'avoir appartenu à son maître, d'avoir mené une mauvaise conduite. » « Enfin, je ne suis pas digne de vous, chevalier dédit. Votre famille nous repousserait tous les deux. Elle aurait raison de nous repousser. Et je ne souffrirai pas qu'aucun chagrin, qu'aucune injure vous arrive à cause de moi. »« Un chagrin? Ah, m'en ferez-vous un plus grand que celui-ci? Une injure? En est-il de plus réel que de me refuser? Vous me méprisez donc ?» « Je vous admire, je vous vénère, je vous adore, et mon éternelle gloire sera que vous m'avez jugé digne d'être votre compagne. Ma seule façon de prouver que je le mérite est de vous prier d'oublier ce désir. »« Vous l'entendez? Vous la voyez, madame? Elle se meurt de chagrin, elle se meurt de ses remords, car elle a des remords. Elle est malheureuse de mon bonheur, et elle veut me l'enlever. » Elle veut se séparer de moi, la cruelle. » Ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre, et rien de plus touchant que les discours qu'ils s'adressaient. Ils auraient tiré des larmes d'une statue. Cependant, Aïssé résistait. Pour l'attendrir, il lui parla de sa fille, de l'avantage qu'elle en retirerait. « Lequel? Il ne lui en reviendra aucun. » Ma fille sera mieux vue, plus honorée n'étant que la vôtre, laissant son humble mère dans l'oubli. Ne m'épousant point, vous n'épouserez personne. » Cette fille était admirable de sagesse et de logique. Elle sacrifiait son avenir à celui de son amant, et quelques instances qu'il lui fit, elle fut inébranlable. Il revenait chaque jour à la charge, nous tourmentait tous pour que nous la décidassions, et nous accusait de n'avoir point de cœur et de vouloir leur mort, puisque nous ne la persuadions pas. Madame de Villette et Lord Bolingbroke s'y employèrent de tout leur pouvoir. Je fus moins ailée, je l'avoue. Je trouvais cette union au moins inutile. Ils me semblaient plus heureux et plus à leur place comme ils étaient. Le mariage était ma bête noire, le mien m'ennuyait tant. Les choses restèrent ainsi pendant bien des mois, jusqu'à ce que le hasard mit entre eux une autre personne qui précipita la catastrophe et amena la fin de ce roman si joli et si sentimental. Je n'aurais pu aimer ainsi, et j'en ai toujours remercié Dieu. Ces grandes passions me semblaient envoyées aux hommes, et surtout aux femmes, pour les châtier et les rendre misérables. Je n'en ai pas vu réussir une seule. J'ai cependant plus de 80 ans. Avis à mon joli secrétaire. Madame raisonne de l'amour comme des couleurs. Elle est aveugle et elle n'a jamais aimé. Chapitre 42. Je suis restée assez longtemps sans rien écrire, ayant été plus malade que de coutume. Je viens de me faire relire les dernières pages de mon récit, et j'ai vu, avec surprise, que rien n'était en ordre. La mémoire me fait quelquefois défaut. J'ai besoin qu'on me rappelle ce que j'ai dit. Et mon petit secrétaire féminin est encore plus étourdi que je ne suis oublieuse. Je fais, je crois, ce mot-là. Elle ne m'a donc point averti que dans l'histoire de Mademoiselle A.I.C., il se trouve des répétitions et des transpositions fort désagréables. Je n'y puis retoucher sans tout refondre, et le temps me presse. Je voudrais achever ces mémoires avant de mourir, et je n'ai guère que des jours de grâce. L'intelligence et la bonne volonté du lecteur y suppléeront. Il comprendra, par exemple, que la scène au Palais-Royal se passe avant la lettre écrite par A.I.C. à M. le Régent. Il comprendra que le récit de son accouchement, deux fois répété, est une erreur de mémoire, et que tout cela est la faute de cette petite sotte d'enfant que je congédie une bonne fois et dont je ne veux plus pour secrétaire. Je rends au fidèle Viard son sceptre, c'est-à-dire sa plume. Il m'a promis d'écrire ce que je lui dicterai, sans observation, même lorsque je froisserai son opinion sur ce qu'il préfère. Dès lors, je n'ai plus besoin d'un autre que lui. Ne m'a-t-elle pas fait dire aussi que j'ai manqué d'épouser Lauzun, à moins que ce ne soit de la main gauche? C'est à dégoûter à jamais des étourdis. Revenons à Mademoiselle A.I.C. et reprenons-la une bonne fois pour ne plus la quitter du tout. Mademoiselle A.I.C. partit avec Madame de Ferriole pour la Bourgogne, c'est-à-dire pour le château de Pont-de-Vel, où ses amis passaient quelquefois un peu de temps, lorsque Madame de Ferriol pouvait prendre sur elle de quitter Paris. Elle les suivit par raison, car toute sa vie, tout son bonheur, était avec le chevalier. Il profita de ce moment pour aller lui-même dans sa famille. Ils se trouvèrent donc séparés et réduits à la correspondance, et c'est une grande douleur pour ceux qui s'aiment ainsi. Mademoiselle A.I.C. était triste et mélancolique. Elle se promenait seule sous les beaux arbres du parc, fuyant les nombreuses visites qui se pressaient chez sa protectrice, comme cela est d'usage en province pour toutes les dames de château. Cependant, il en arriva une qu'elle ne repoussa point. La reconnaissance lui faisait un devoir de l'accueillir. C'était une amie des Ferriols. C'était bien plus, c'était une alliée de Lady Bolingbroke, et elle venait de sa part. Cette personne était Madame de Calandrini, de Genève. Son mari était genevois, mais elle était française, et fille de Monsieur de Pélissari, trésorier général de la marine. Une de ses sœurs avait épousé le vicomte de Saint-John, père de Lord Bolingbroke, qui était enfant d'un premier lit. Elle passa quelques semaines à Pont-de-Vel et s'attacha tellement à la belle grecque qu'elle lui promit de venir l'hiver suivant à Paris afin de la voir davantage. Madame de Calandrini était une personne d'esprit, très vertueuse, un peu prude, comme tout ce qui sort de Genève, mais tempérée cependant par ses premières fréquentations. Elle apprit bien vite les amours de nos jeunes gens, que tout le monde savait, et là-dessus, elle bâtit un projet de réforme. Elle commença à prêcher doucement A.I.C., à lui répéter qu'une situation comme la sienne n'était pas soutenable pour une fille d'honneur. Elle lui mit sous les yeux ce qu'elle appelait « sa conduite » et lui en représenta toute l'abomination. « Pauvre fille, un pareil amour !»« Vous ne pouvez vivre ainsi, mademoiselle !» lui disait-elle. « Épousez le chevalier, et c'est ce que vous devriez faire pour votre fille et pour vous, ou bien... »« Épousez le chevalier, madame, je l'aime trop. J'aime trop ma fille pour commettre une action semblable. Je l'ai dit souvent, je ne suis pas digne de lui. Et ma fille sans mère est plus heureuse, mieux placée qu'avec une mère telle que moi. Elle est seulement la fille du chevalier. » Et la fille du chevalier sera reçue, aimée, choyée, partout comme lui-même, j'en suis certaine. Alors, ma reine, n'hésitez pas, prenez courage et rompez vos liens. Madame, soyez l'amie du chevalier, soyez sa sœur, ne soyez plus sa maîtresse. Il vous aimera tout autant, et vous reconquérerez votre estime et celle des autres. « Madame, nous en mourrons !»«
On ne meurt pas pour faire son devoir. »
« Hélas, il me faut donc réduire au désespoir cet homme que je voudrais rendre si heureux. Cette passion a résisté à tout, aux douleurs, aux persécutions, à l'absence. Il est allé au fond de la Pologne, et de là, il m'écrivait des lettres brûlantes. Il ne pensait qu'à moi. Sa famille, mes protecteurs, mes amis se sont mis entre nous. Nous avons désarmé leur sévérité, leur tendresse. Rien n'a pu nous séparer. » Et il faudrait maintenant nous désunir, lorsque tout nous rattache l'un à l'autre.
Si vous êtes chrétienne, si vous êtes une personne d'honneur, vous ne pouvez hésiter un instant.
Je n'aurai jamais la force de l'affliger, madame.
Ah, je vous croyais plus de grandeur d'âme, plus de foi, plus de confiance en Dieu.
J'aime la vertu, madame. Le ciel m'est témoin que je l'aime par-dessus toute chose. Mais je ne puis songer à la douleur du chevalier sans que mon âme se fonde dans mes larmes. Si vous eussiez été madame de Ferriol, vous m'eussiez donné vos principes solides, et je n'y aurais point failli. Tandis qu'à présent... À présent, il n'est pas trop tard pour réparer. Il n'est jamais trop tard. Si vous m'aimez, faites-le pour moi. Si je vous aime, je vous aime comme ma mère, comme ma fille, comme ma sœur. Comme mon ami, comme tout ce qu'on peut aimer en ce monde.
Alors, tout doit vous être facile pour me plaire.
Oui, mais le chevalier, je l'aime comme mon amant, lui.
Vous êtes bien malade, ma chère Aïssé.
Et je ne guérirai que par la mort, madame.
Ces conversations se renouvelèrent souvent. Il ne se passa pas de jour sans que la genevoise ne recommençât son antienne. Aïssé résistait de son mieux, mais elle cédait pied à pied, et enfin elle en arriva à promettre qu'elle essaierait d'obéir. Nous la voyions triste, malade, occupée sans cesse on ne savait de quoi, appelant le chevalier, le repoussant et l'accablant de caresses, lui demandant pardon en le suppliant de s'éloigner, pleurant des journées, des nuits entières, et refusant de s'expliquer avec nous. Ce pauvre dédit perdait sa science, mais la patience, jamais. Il lui offrait continuellement de l'épouser, la pressait d'y consentir, et se retirait dans la désolation, lorsqu'elle lui avait dit en se tordant les bras, « Non, non, ce n'est pas cela, au contraire !» Et la pauvre fille dépérissait de plus en plus. La fièvre ne la quittait pas et la minait jusqu'à ce qu'elle l'eût rendu son mal incurable. Cette madame de Calandrini peut bien dire qu'elle l'a assassinée avec sa vertu et ses sermons. Aïssé s'en alla revoir son amie, qu'il avait quittée, afin de reprendre des forces. Elle se jeta dans la dévotion la plus ardente et fut aidée par la voix de sa conscience, qui lui criait d'obéir au conseil de la sagesse. En revenant de Genève, elle s'arrêta à Sens, vit sa fille, qu'elle trouva la plus aimable enfant possible, et, dans les quelques jours passés avec elle, se fortifia encore, si bien qu'elle nous revint, toute décidée. Lorsque je la revis, elle m'embrassa beaucoup, et sans me dire de quoi il était question, elle me pria de voir souvent le chevalier, de le distraire, de l'emmener avec moi, de tâcher ainsi qu'il demeurât à la cour le plus possible, elle qui se plaignait tant qu'il y allât autrefois. « Et pourquoi tout cela ?» lui demandai-je.
« Parce que je vais lui faire beaucoup de mal, et que ses amis doivent le lui faire oublier.
Si vous lui faites du mal, ma reine, vous vous en faites autant qu'à lui, ce me semble, car vous nous revenez dans un état désastreux. « Soignez-vous d'abord, guérissez-vous, et puis vous lui ferez du mal ensuite, quand vous serez capable de le supporter. »
Elle ne me répondit pas et leva les yeux au ciel, comme pour lui offrir en holocauste et son bonheur et celui de son amant. Elle le revit, elle passa 2 jours avec lui, sans lui rien avouer, plus tendre, plus affectueuse que jamais. Lorsqu'il la quitta le dernier soir, elle lui dit en lui donnant sa main à baiser, « Demain, mon chevalier, vous aurez une lettre de moi. »
« Et pourquoi une lettre? Est-ce que je ne vous verrai pas ?»«
Je ne sais, mais je vous écrirai toujours. » »«
Cela m'inquiète, Aïssé. » »«
Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien que de très bon pour nous. » »«
Mon Dieu, est-ce que vous consentez ?»«
Je consens à ce qui est le meilleur pour tous les deux. »
Le lendemain, en effet, il reçut cette lettre dont il nous a donné copie.
« Je tremble en vous écrivant, mon chevalier, pour la première fois de ma vie, car j'ai peur que cette lettre ne soit mal interprétée par vous. Je vais vous parler avec toute ma tendresse, avec la tendresse la plus grande qui fût jamais. Je vais vous affliger peut-être, mais je vous conjure de ne pas accuser mon cœur. Je ne vous aime que trop, je vous aime autant que Dieu. En vous aimant faiblement, je ne trouverai pas le courage nécessaire au sacrifice que je fais. Il me semble que c'est moins pour mon salut que pour vous rendre heureux. Mon chevalier, nous vivons dans des liens que ma conscience réprouve. Nous pouvons, nous devons nous aimer, mais non pas comme nous nous aimons. Cela n'est pas bien, c'est manquer à la foi divine. Et si vous ne voulez pas que je meure, vous mettrez un terme au supplice que j'endure, en faisant taire mes remords. Je ne puis, je ne veux plus être pour vous qu'une sœur, mon ami. Je ne dois plus entraver votre existence en me jetant entre vous et l'avenir. Vous êtes libre, chevalier, et vous pouvez placer dans d'autres projets les espérances que vous formez. Rien ne diminuera l'affection que je vous porte. Tant que je vivrai, je serai votre haïssé. Je ne puis aimer que vous. Et votre bonheur est le mien. J'ai promis à Dieu de ne plus vous être que ce que je dois. Vous ne me ferez point manquer à cette promesse. Surtout, vous ne me direz pas que vous en souffrez, car je ne saurai plus la tenir, et je ne saurai en même temps vivre du tourment que j'endure. Le désordre de cette lettre vous montre dans quelle situation je suis. Je vous recommande une petite personne que vous aimez. Reportez sur elle l'amitié que vous avez pour moi. Soyez pour elle ce que vous êtes pour la pauvre Aïssé, et que je la sache entre vos mains, je mourrai contente. Je vous connais bien, mon chevalier. Je sais ce que vous valez et ce que vous êtes, et personne ne vous rendra justice autant que moi. Voilà pourquoi je compte que vous entendrez ma prière. Ne venez pas aujourd'hui, ne venez pas demain, ne venez que quand vous serez bien sûr de vous. Répondez-moi après avoir réfléchi. Et ayez pitié de ma douleur, qui ne saurait être plus vive que si vous la partagiez. » En recevant cette lettre, M. Dédit courut d'abord chez le chevalier de Frosset, son ami de cœur. Autre perfection, si ce n'est qu'il n'avait pas le charme de l'amant d'Aïssé. Voltaire, je l'ai déjà dit, avait pris de ses parfaits chevaliers le modèle de son Coucy dans Adélaïde du Guesclin. Ils arrivèrent ensemble chez moi, Dédit tout bouleversé. Il me montra cette lettre. « Ah, madame, voyez ce qu'elle m'écrit et ce que cela signifie !»«
C'est l'ouvrage de la Genevoise, » répondis-je. « Je m'en suis douté depuis longtemps.
Et qu'allez-vous faire ?»
« Il doit obéir aux vœux de son ami, madame, » répliqua M. de Frosset. « Il n'est point d'un galant homme d'obliger une femme à plus qu'elle ne veut. »«
Elle changera !»«
Elle ne changera point, madame. Vous ne connaissez pas Aïssé comme moi. Du moment qu'elle s'est décidée à écrire ceci, c'est qu'elle est résolue. Elle combat sans doute depuis longtemps. Voilà pourquoi elle dépérissait. À présent, son parti est pris. »
« Eh bien, chevalier, prenez le vôtre. »«
J'en mourrai. »«
Vous en mourrez tous les deux, car elle n'y résistera pas, j'en suis certaine. »«
Hélas, madame, pourquoi nous faire tant de chagrin? Et croyez-vous donc que la vertu consiste à cela ?»
Il ne m'appartenait pas de répondre, et Monsieur de Frosset n'en fit pas plus que moi. La pauvre Aïssé refusa de le voir pendant 8 jours. Au bout de ce temps, sa fidèle Sophie arriva tout en larmes
et dit que sa maîtresse était fort malade, qu'il fallait envoyer le chevalier sans la prévenir, parce qu'elle refuserait de le voir, et que certainement elle succomberait, si on n'y mettait pas ordre. Le chevalier y courut. Il fut reçu malgré elle, se jeta à ses genoux, pleura, montra son visage défait, et supplia qu'on ne le renvoyât plus. Elle en fut touchée jusqu'au fond de l'âme, et madame de Calandrini eut encore tort cette fois-ci, comme je l'avais prévu. Mais à dater de ce moment, Aïssé fut frappée à mort. Le combat perpétuel qui se livrait entre son cœur, sa raison, ses remords, tous les sentiments de son âme, enfin, devint impossible à supporter. Elle tomba tout à fait malade. Sa poitrine et ses entrailles s'attaquèrent. Elle en arriva à ne plus rien supporter que du lait. Encore ne lui faisait-il aucun effet. Sa vie devenait intolérable. Elle voulait, elle ne voulait pas. Elle repoussait ce pauvre homme qu'elle rappelait ensuite. Elle priait, elle pleurait, elle souffrait à crier par moments, comme une femme en couche. Nous en avions tous pitié. Son mal nous faisait mal à nous-mêmes. Il advint ce que l'on aurait pu prévoir, et le ciel se servit pour la rappeler à lui de la personne du monde la moins propre à cela. Madame de Parabère se mit en tête de la faire confesser. Elle lui en parla plusieurs fois et lui dit qu'elle serait bien plus tranquille si elle s'y décidait. Comme je lui témoignai mon étonnement de la voir se transformer en apôtre, « Écoutez, dit-elle, voilà ce qui m'a décidé. J'ai une tante qui s'est retirée à la Madeleine du Trénel, non pas pour y recevoir monsieur d'Argenson avec les religieuses, mais pour y vivre réellement tout en Dieu. Elle m'a fait demander, j'y suis allée. C'était dans l'intention de me prêcher. Je n'avais point envie d'écouter ces patenôtres. Mais je vis une femme qui souffre toute l'année de 5 ou 6 maladies qu'elle a, une femme abîmée de toutes les façons, ruinée, tourmentée par ses enfants, persécutée par son mari qui l'aurait voulu assassiner 2 ou 3 fois dans sa jeunesse. Je vis cette femme calme, reposée, heureuse, louant Dieu de tout, reportant tout à lui, et si résignée, portant ses croix d'une telle manière, qu'elle me donna à penser, et que je songeais tout de suite à cette pauvre Aïssée que j'aime beaucoup. Qu'elle se jette dans la religion, elle se guérira. Ah, je ne demande pas mieux, répondit la malade. Mais auparavant, il faut en terminer tout à fait avec le chevalier et qu'il l'accepte. Cela ne doit pas lui coûter maintenant. Je ne suis plus qu'un objet à faire horreur. D'abord, vous n'êtes pas à faire horreur, ma reine, mais vous guérirez, vous redeviendrez belle, et cela lui en coûtera beaucoup. Madame de Parabère a raison, repris-je, mais que cela ne vous arrête pas. Faites comme il vous conviendra le mieux, et ne pensez pas au reste. Le bon Dieu n'est pas si difficile que les hommes, j'en suis sûre. Il voit ce qu'ils ne savent point. Si vous voulez un confesseur, je vous en amènerai un excellent. J'ai le père Bourceau, que je connais. C'est un homme d'esprit et qui comprend les femmes. Je l'accepte. Seulement, comment nous débarrasserons-nous de madame de Ferriole? Si elle ou madame de Tencin savaient nos projets, il se ferait plus d'intrigues autour de moi que nous n'aurions de temps à leur donner. Madame de Ferriole me conduirait à un directeur mouliniste. Madame de Tencin, qui me hait, trouverait moyen d'envenimer cette action, bien naturelle chez une mourante. Ne disons rien. J'écrirai au chevalier ce soir, je lui ferai part de nos intentions, et j'obtiendrai son consentement. Je ne veux rien lui cacher. Elle lui écrivit en effet quelques lignes pour lui rappeler sa première lettre, et l'y renvoyer pour tout de bon cette fois. Ces lignes ne se sont pas retrouvées. Mais voici la réponse du chevalier. Vous jugerez ainsi ces parfaits amants l'un après l'autre. Votre lettre, ma chère Aïssée, me touche bien plus qu'elle ne me fâche. Elle a un air de vérité et une odeur de vertu à laquelle je ne puis résister. Je ne me plains de rien, puisque vous me promettez de m'aimer toujours.
J'avoue que je ne suis pas dans les principes où vous êtes. Mais Dieu merci, je suis encore plus éloignée de l'esprit de prosélytisme, et je trouve très juste que chacun se conduise suivant les lumières de sa conscience. Soyez tranquille, soyez heureuse, ma chère Aïssé. Il ne m'importe des moyens. Ils me paraîtront tous supportables, pourvu qu'ils ne me chassent pas de votre cœur. Vous verrez par ma conduite que je mérite vos bontés. Et pourquoi ne m'aimeriez-vous, puisque c'est votre sincérité, puisque c'est la pureté de votre âme qui m'attache à vous? Je vous l'ai dit mille fois, et vous verrez que je ne vous trompais pas. Est-il juste que vous attendiez que les effets vous aient prouvé ce que je vous ai dit pour le croire? Ne me connaissez-vous pas assez pour avoir en moi cette confiance qu'inspire toujours la vérité aux gens qui sont capables de la sentir? Soyez, dès ce moment, assurés que je vous aime, ma chère Aïssé, aussi tendrement qu'il est possible, aussi purement que vous pouvez le désirer. Croyez surtout que je suis plus éloignée que vous-même de prendre jamais d'autre engagement. Je trouve qu'il ne doit rien manquer à mon bonheur tant que vous me permettrez de vous voir et de me flatter que vous me regarderez comme l'homme du monde qui vous est le plus attaché. Je vous verrai demain, et c'est moi-même qui vous remettrai cette lettre. J'ai mieux aimé vous écrire que de vous parler, parce que je sens que je ne pourrai traiter avec vous la matière sans perdre contenance. Je suis encore trop sensible, mais je ne veux être que ce que vous voulez que je sois. Et dans le parti que vous aurez pris, il suffira de vous assurer de ma soumission et de la constance de mon attachement, dans tous les termes où il vous plaira de le réduire, sans vous laisser voir des larmes que je ne pourrais empêcher de couler, mais que je désavoue, puisque vous m'assurez que vous aurez toujours pour moi de l'amitié. J'ose le croire, ma chère Aïssé, non seulement parce que je sais que vous êtes sincère, mais encore parce que je suis persuadée qu'un attachement aussi tendre, aussi fidèle, aussi délicat que le mien, fera l'impression qu'il doit faire sur un cœur comme le vôtre. » Le sacrifice était donc consommé d'un côté comme de l'autre. Il coûtait plus peut-être à Aïssé qu'à son amant. Celui-ci, cependant, était dans une douleur, dans une anxiété à faire pitié. Tout ce qui entourait la malade, jusqu'à son petit chien Patty, qui le sentait du bout de la rue et annonçait son arrivée en aboyant gaiement, jusqu'à la vache qui fournissait le lait, à laquelle il achetait du foin, tout était l'objet de ses soins. Rien n'approchait de son état. Nous n'étions occupés qu'à le rassurer. Il croyait, à force de libéralité, racheter sa vie. Il donnait à l'un de quoi faire apprendre un métier à son enfant, à l'autre de quoi avoir des rubans et des palatines, car il touchait quasi à la folie. Nous lui demandions à quoi mèneraient ses prodigalités. À obliger tout ce qui l'environne à avoir soin d'elle. On ne se figure pas cette douleur, cette passion, ces recherches. Il s'éloigna le jour de cette confession. Madame de Parabère emmena Madame de Ferriol je ne sais où. Pendant ce temps, je courus avec le carrosse de cette pêcheresse royale chercher le père Bourseau, qui accourut de bien bon cœur et qui resta 3 heures avec elle. Il revint le lendemain encore, puis le jour suivant. Madame de Ferriol, toujours hors du logis. Enfin, il lui donna l'absolution et la communion le samedi d'après. Nous devions tous y assister. Le chevalier voulait y être. On ne le permit pas. Il resta dans la pièce à côté, à cause des gens et pour le bon exemple. Jamais il ne répandit tant de larmes. Aïssé était céleste. Elle reçut le viatique avec une onction et une ferveur d'ange. Dès que tout le monde fut parti, quand nous restâmes seuls, le père Bousseau étant demeuré, on fit entrer l'inconsolable Dédi. Il se jeta à genoux près du lit. Son cœur semblait près de se fendre. La mourante lui tendit la main. « Mon ami, dit-elle, Je suis bien heureuse, je suis régénérée. Il m'est permis de vous aimer purement, saintement, et je vous aime. Je vous aime avec autant de tendresse que jamais. Seulement, dans ma tendresse, il ne reste plus rien de ce monde. Je vais vous attendre.
Aïssé, ma chère Aïssé,
nous avons commis de grandes fautes. Je me suis repenti. Repentez-vous aussi. Lorsque je n'y serai plus, cherchez vos consolations dans le sein du Dieu qui ne trompe jamais. Il vous donnera les forces qu'il m'a données. N'abandonnez pas celle que je vous lègue et qui vous aimera pour nous deux. » Il suffoquait et ne put répondre. Il tenait sa main qu'il couvrait de larmes et de baisers et resta comme anéanti à la même place. Vous, mes amis, qui voyez comment on meurt, lorsque le Seigneur vous reçoit dans sa grâce, que mon exemple vous profite, ajouta-t-elle en se tournant vers nous. Je vous remercie de vos soins, de votre amitié. Je prierai pour vous tous. Nous étions devenus fontaines. Nous ne la quittâmes qu'après sa mort. D'Argental et Pondevel également. Ils reçurent aussi de bien touchants témoignages de son amitié. Les derniers mots qu'elle prononça furent ceux-ci, en voyant son chevalier abîmé dans sa douleur. « Consolez-vous, mon ami. Mieux vaut me voir morte que souffrant ce que je souffrais depuis qu'il me fallait ne vous aimer qu'à demi. » Elle mourut dans nos bras le 13 mars 1733. Le chevalier faillit la suivre. Ce fut un de ces désespoirs tels qu'on n'en voit que chez les chiens. Les hommes d'ordinaire n'ont pas ce cœur-là. Il resta plusieurs mois comme un fou et plusieurs années dans une mélancolie sans pareille. Sa seule consolation fut sa fille, qu'il retira de Sens et qu'il conduisit dans sa famille. Elle avait les charmes et les vertus de sa mère. Il la maria bien au vicomte de Nanty, gentilhomme du Périgord. Puis ensuite, il se retira à Mayac, le château de sa famille, et ne fit plus que de rares apparitions parmi nous. Je le regrettais sincèrement. Il venait quelquefois et nous écrivait. On trouvera beaucoup de ses lettres dans mes cassettes après ma mort. Elles sont pleines de beauté et d'agrément. J'eus le chagrin de le perdre en 1761. Chapitre 43. J'ai promis de parler de moi, et en effet, le moment est venu. Nous reprendrons ensuite une autre aventure. Je n'aime guère à entrer en scène. Cependant, il le faut, puisque j'écris mes mémoires. Nous allons en revenir à l'arnage et à ce qui s'ensuivit. Cette suite-là nous mènera loin. Après la soirée de Sceaux, lorsque je fus mêlé au chagrin de Madame de Parabère et à mille autres événements, je restai quelque temps sans entendre parler de mon ami aux étoiles. Il attendait que je l'appelasse, et ne pouvait vaincre sa timidité. C'est un grand défaut pour un homme que la timidité. C'est un vice, aussi grand presque que l'indigence. L'un et l'autre mettent à néant tous les moyens de parvenir. Il était écrit, cependant, que la timidité serait vaincue pour cette fois, et que l'arnage arriverait le premier à ce but qui, depuis... N'anticipons pas sur les événements, s'il vous plaît. Un matin, j'étais ennuyé déjà. Cette maladie m'est venue de bonne heure. Il me prit envie de passer une journée entière, seule, à la campagne, et de me rapprocher de la nature, afin de mieux penser. Je parle en ce moment le jargon à la mode du jour. La nature et la pensée sont les deux mots dominateurs de notre époque. Rousseau et les autres philosophes les ont mis en honneur. Nous verrons. Ou plutôt, on verra où tout cela doit nous conduire. Je m'en allai donc, sans autre suite qu'un laquais, fort bête, visiter une maison à vendre à Ville-d'Avray. Non pas que j'eusse envie d'en faire emplette, mais pour avoir un but et un prétexte. Il faisait un temps merveilleux. Je louai un carrosse, j'emportai quelques provisions, Je revêtis un costume de circonstance et je me promis un plaisir infini. Arrivé à Ville d'Avray, je remisai mon carrosse dans une auberge où l'on admit mon laquais à la table des gens. Quant à moi, je ne voulus rien manger du tout. J'allais examiner la campagne en question. Et puis je me jetai dans le bois, un panier au bras, mon petit chien courant en avant à travers les herbes. On m'eût prise pour une bourgeoise en vacances. Je sautais, ma foi. Je courais avec Amadis. Je chantais tout ce que je savais de chansons et j'allais sans savoir où. Il m'importait bien. Je voulais oublier les ennuis et les embarras de la cour et de la ville, et je composais un bouquet à la façon des bergères. Voltaire, auquel j'ai raconté cette équipée, m'a dédié à ce propos de jolis vers. J'ai eu l'étourderie de les perdre, ou plutôt on me les a volés. Ce qu'il y a de pis, c'est que contre sa coutume, il n'en avait point copie. Après 2 heures de promenade, la faim me prit, et je songeais à mon festin. Je cherchais une belle place, bien nette, de l'herbe bien épaisse et bien moelleuse, enfin tout ce qui pouvait rendre pour moi la scène plus voluptueusement agréable. Je trouvai tout cela auprès d'une fontaine, sous de grands chênes. Je me souviens de quelques-uns des vers du grand homme, et il est dommage que j'aie oublié le reste. Son onde était tranquille et coulait lentement. Du plus parfait repos, ses bords offraient l'image. Deux vieux chênes touffus lui prêtaient leur ombrage. Je ne me rappelle plus ce qui suivait. Seulement, ma description est faite. J'ouvris mon sac et je commençai mon repas. J'avais entrepris de couper une volaille froide, bien appétissante, et je n'en pouvais venir à bout. Je n'ai jamais su couper. Monsieur Dudefant en avait la rage. Je le laissai faire, et plus tard, mon brave viard n'eut pas souffert que je prisse cette peine. J'étais donc fort maladroite, et j'en riais tout haut. Amadis, assis en face de moi, me regardait et attendait sa part. Peut-être se moquait-il de moi en lui-même. Ah, si l'on pouvait savoir ce que les chiens pensent. Au milieu d'un éclat de rire, et comme j'entamais à belles dents ma proie, je fus tout étonné d'entendre un écho à mon rire. Je relevai la tête et j'aperçus 2 jeunes gens dont la mise révélait la profession. Très beaux tous les deux. L'un, inconnu, riait de tout son cœur, et l'autre me contemplait, respirant à peine. Celui-là, je le connaissais, et il ne riait pas. C'était Larnage. « Madame la marquise ? » murmurait-il tout étonné. « Et moi donc ? Qui s'attendait à le trouver là ? Il était cependant bien plus naturel de l'y voir que moi. J'en fus déconcerté, et je restai mon poulet à la main, un morceau de pain de l'autre, en face de ces 2 garçons, l'inconnu riant toujours, et Larnage encore plus stupide que moi. Si c'est possible, néanmoins. « Monsieur Larnage, » dis-je enfin. « Ah, madame, que vous est-il arrivé ? » poursuivit-il. « Il me semble qu'il n'est rien arrivé de bien fâcheux, madame, » reprit l'autre. « Elle est fort gaie et de bon appétit. »« Mais ce costume... « Cette solitude !»« Eh bien, ce costume, cette solitude, ce sera quelque caprice de jolie femme, quelque rendez-vous, peut-être. »« Rendez-vous » s'écria-t-il, devenant blême et englobant d'un regard tous les environs pour chercher ce rival prétendu. « Oh non » repris-je étourdiment. « Pas de rendez-vous, s'il vous plaît. Un caprice, peut-être. » Larnage respira. Je commençais à me remettre. Bien que très jeune, je n'étais pas si timide que lui. « Asseyez-vous, monsieur Larnage, » continuai-je, « si vous n'avez rien de mieux à faire. Qui est ce monsieur ?»« C'est mon ami Frémont, l'ami d'un homme qui vous plaît fort, de monsieur de Voltaire. »« Vous êtes donc l'ami de tout le monde, monsieur. » « Je n'oserais prétendre à devenir le vôtre, madame. C'est un rôle dangereux. » Un brave sait courir au-devant du danger pour le vaincre. Ah, madame, quelle triste victoire !» Il se mit à rire encore. Il était bien gai, ce pauvre Frémont, en ce temps-là surtout, où il était fort jeune et joli à croquer. L'arnage ne revenait pas de cette aisance qu'il enviait sans pouvoir l'atteindre. Il ne savait rien autre chose que me regarder. Les façons de son ami me convenaient bien mieux en ce moment. « Avez-vous dîné, messieurs ?»« Non, madame, ni déjeuné non plus. »« Voulez-vous être mes convives ?»« À une condition, cependant, même à deux conditions. »« Lesquelles ?»« C'est que vous couperez mon poulet et que monsieur l'arnage rira. »« Couper le poulet ? Je m'en charge. » « Faire rire l'arnage, c'est une autre entreprise, et je ne m'en charge pas. Pourquoi »« Pourquoi ?»« Pourquoi ? Je ne sais si je dois vous le dire, madame. »« Dites toujours. »« Vous ne vous fâcherez pas ?»« Non. »« Eh bien, je l'espère. » Une marquise, en déshabillé d'indienne, en jupon court, en chapeau de paille, dévorant un chapon toute seule dans les bois de Ville d'Avray, au bord d'une fontaine, ne peut pas être d'humeur à se fâcher. Je parlerai donc. « Frémont !» reprit l'arnage d'un air suppliant. « Je parlerai, te dis-je, et tu n'en seras pas très fâché après. » « Un instant, monsieur, avant d'entamer cette question disputée, je suis curieuse, je désire m'instruire. Il me faut savoir où je marche pour être à mon aise. Vous vous appelez Frémont. » Vous êtes l'ami de monsieur l'arnage, vous êtes l'ami de monsieur de Voltaire, je n'en doute pas. Mais ensuite, que faites-vous? À quoi occupez-vous vos loisirs? Madame, je trouve la question toute simple, et j'y répondrai volontiers. J'étais clerc chez maître Alain, procureur, rue Perdue, près la place Maubert. Mais je m'y déplaisais, et j'en suis sorti depuis quelque temps. Maintenant, je m'appartiens à moi-même. Mes parents, qui sont de Rouen, voudraient que j'y retournasse. Moi, je ne m'en soucie point, et je m'en soucierai moins que jamais, car certainement, dans les bois normands, je ne trouverai pas d'amadriade de votre sorte. Nos marquises normandes ne sont pas si faciles à chercher la solitude, et on ne les voit pas sans un cortège. On n'en voit guère ici non plus, monsieur, et je n'en sais qu'une autre avec moi, capables de cet oubli des usages reçus. En revanche, elles sont capables de bien autre chose. Ce n'est pas d'elles qu'il s'agit, c'est de nous, monsieur. Vous allez donc couper ce poulet. Tout de suite, à votre service. J'ai encore à vous offrir un pâté, de la bonne faiseuse, des fruits et du vin de Bourgogne. C'est un frugal repas, mais c'est le denier de la veuve. Les compliments commencèrent entre Frémont et moi. Pour l'arnage, il ne desserrait pas les dents. Ses yeux seuls parlaient. Et quel langage! Tout en enlevant les ailes de notre bête, Frémont regardait à droite et à gauche. Il observait notre trouble et se plaisait à l'augmenter. « Madame, je ne vous ai pas conté les raisons de la tristesse de l'arnage. »« Ah, c'est vrai, je les écoute. » Eh bien, l'arnage est triste parce qu'il est amoureux. Amoureux ? Il me semble plutôt qu'il est figé, répliquai-je en prenant un air dégagé. Figé dans l'amour, oui, madame. Monsieur l'arnage est donc amoureux depuis longtemps, car il était ainsi il y a... beaucoup d'années, oui, madame, il était ainsi. L'arnage porte dans son cœur le même amour, sans qu'une de ses pensées s'en soit distraite. Seulement, il aimait d'abord une demoiselle. À présent, c'est une dame. Hein ? Il a changé ? Non, c'est son idole qui a changé. Elle a changé ? Oui, de nom, d'état, de principe. Au lieu d'une charmante fille, c'est aujourd'hui une belle femme. L'arnage n'est pas plus satisfait pour cela. Je ne pus retenir un sourire. « Madame, vous en riez ? Je ris de vous qui parlez, je ris de moi qui vous écoute, je ris encore plus de ce pauvre monsieur l'arnage, qui vous laisse faire les honneurs de sa personne sans se défendre. »« De quoi se défendrait-il, madame ? De la constance ? Est-ce donc un tort ? Le condamnez-vous ? Je ne saurais condamner ce que j'ignore. »
Vous ignorez la constance ?
Ah, madame la marquise, est-il bien possible que vous donniez aux hommes de ces exemples-là, à votre âge ?
J'aurais volontiers battu l'arnage qui ne disait mot et qui laissait cet autre avoir plus d'esprit que lui. Et il avait trop d'amour. L'amour rend bête les gens d'esprit et donne de l'esprit à ceux qui n'en ont pas. Rien de plus rare en général que d'avoir le cœur spirituel. C'est un charme et une force immense. Je n'ai guère connu que le chevalier d'Édie et son Aïssé qui fussent dans ce cas-là. Quant à moi, je n'y ai pas même essayé. J'aurais échoué, j'en suis sûr. Nous mangeâmes de bon appétit, en riant toujours. L'arnage se remit peu à peu, et il en vint à placer son mot.
« Madame, il parle !» s'écria Frémont.
« C'est donc qu'il aime moins ?»«
C'est qu'il a appris à le dire. »
Je ne voulais pas répondre. Un tiers, quelque bienveillant qu'il soit, gêne toujours les débuts d'une inclination. Cependant, Frémont ne pouvait nous laisser. Il aurait eu l'air de devancer mes ordres, et certainement je ne l'aurais pas souffert. La destinée de ce pauvre Larnage était singulière en ce qui me concerne. C'est peut-être le seul homme que j'ai aimé. C'est celui qui m'a le plus aimé. Et pourtant. Revenons au bois de Ville-d'Avray. Frémont se sentait de trop. Son tact parfait lui défendait de nous quitter. La position était ardue. Il cherchait à la tourner. Je désirais qu'il en vînt à bout. L'arnage le désirait davantage encore. Nos trois esprits réunis pour chercher, sans se le dire, ne trouvaient rien. Le hasard fut plus adroit que nous. Après avoir mangé, bu, causé au bord de la fontaine, nous reprîmes notre route et nous nous mîmes à errer dans les bois. Nous arrivâmes ainsi jusqu'à une charmante maison bâtie autrefois par l'Anglais et vendue, après la mort de celui-ci, à un riche Anglais qui n'y passait pas 8 jours dans l'année. Il ne la faisait pas moins soigneusement entretenir. Les jardins étaient les plus beaux du monde, les plus remplis de fleurs. On y allait de Paris et de Versailles par curiosité, pour les visiter et en rapporter des plantes que le jardinier vendait très cher. Je proposai d'entrer dans cette maison. Ils acceptèrent. Nous nous reposâmes sous un berceau de roses et l'on nous servit d'excellentes crèmes. Il est inouï combien l'on mange dans la journée en se promenant. Nous étions là depuis 1 heure, nous avions tout vu, lorsque 3 quidams, très cossûment vêtus, se présentèrent et demandèrent à leur tour la permission de visiter le logis. En les apercevant, Frémont poussa un cri de surprise. « Mon cousin, dit-il, permettez-vous, madame ?»
Et le voilà, courant après un gros homme, tout gras, tout suintant, qui lui tendit les bras.
« Mon pauvre Frémont, je te cherche partout depuis que je suis à Paris. On prétendait que tu étais en voyage. »
Nous n'en entendîmes pas davantage. Ils passèrent. 1 quart d'heure après, le gardien nous apporta les excuses de notre étourdi. Son cousin l'emmenait. Nous restâmes donc seuls, Larnage et moi. Il fallait maintenant retourner à Ville-d'Avray, rejoindre mon carrosse et partir. Chapitre 44. Larnage était heureux de cette solitude. Il me voyait depuis le matin et la hardiesse lui était un peu revenue. Il marcha d'abord à côté de moi, sans parler, non qu'il me craignît, mais parce qu'il avait trop à me dire. Il ne savait par où commencer. Moi, je l'attendais. Il s'y prit de la meilleure façon, par les souvenirs. Ah, madame, que le ciel était beau à Dampierre, que les étoiles brillaient, que les nuits étaient parfumées, que mademoiselle de Chanron était belle et tendre, et que je l'aimais. Une fois la glace brisée ainsi, il retrouva la parole. Il fut éloquent, empressé, persuasif. Il fut charmant. Et moi, je ne sais trop, ou plutôt je sais bien ce qui arriva ensuite. Je sentis que je l'aimais. Je le lui avouai, et je le fis le plus heureux du monde. Avec cet aveu, il n'en demanda pas davantage. J'ai promis de tout raconter. C'est Viard qui tient la plume, heureusement. Le récit de cette journée aurait été difficile devant ma jeune parente. J'espère qu'elle ne le lira pas. Certains esprits chagrins me jetteront des épines à la tête après mes aveux. D'autres, qui comprennent tout, me comprendront aussi et excuseront les étranges faiblesses de la nature humaine hantée sur une imagination neuve, ardente à s'instruire plutôt dans le mal que dans le bien. Ils feront la part de l'entraînement, d'un étourdissement bien facile à expliquer, de mon âge, de la société qui m'entourait, et enfin de l'époque où je vivais. Si j'avais écrit ces mémoires il y a 30 ans, je n'aurais pas pris la peine de m'excuser. Mais autre temps, autre mœurs, autre roi, autre cour. Sans compter l'avenir, qui sera peut-être plus sévère encore. Revenons à ce jour mémorable. L'arnage me quitta aux premières maisons du village, très heureux, et sans oser croire qu'il existât un bonheur plus grand. Je lui promis de le revoir. Peut-être fus-je un peu étonné de sa retenue. Peut-être aurais-je voulu une passion plus fougueuse, moins modeste. Cependant, je me croyais fort heureuse ainsi, fort amoureuse et fort méprisante de tout ce qui n'était pas cet amour. La route fut un véritable enchantement. Je me rappelais jusqu'au moindre mot, au moindre geste de mon amant timide, et je m'appuyais sur ce souvenir comme sur une espérance. Je faisais de jolis châteaux en Espagne. Ma vie allait devenir plus gaie, plus douce, plus remplie. Je penserais à lui, je le verrais, je l'entendrais, je l'écouterais, et ce serait le bonheur. J'étais encore bien jeune, on le voit, et bien loin du temps où je vivais, ou, comme me disait quelquefois Madame de Tencin, bien provincial. J'arrivais chez moi à la nuit tombante. Ma femme de chambre m'attendait en bas et me prévint que Madame de Parabère était dans mon cabinet depuis 2 heures et qu'elle ne voulait pas s'en aller sans me voir. Ce fut retombé de la hauteur de l'empyrée. Cependant, je courus vers la marquise. En m'apercevant, elle poussa un cri. « Enfin, je viens vous chercher. »«
Me chercher ? Pourquoi faire ?»«
Pour souper. »«
C'est impossible. Je suis fatiguée. Je veux me coucher. J'ai passé la journée à la campagne. J'ai besoin de dormir. »«
Quoi ? À la campagne ? Toute seule ? » ?»«
Oui, toute seule. »«
Et dans cet équipage ?
Marquise, vous vous moquez de moi. Vous me cachez quelque jolie amourette. » »«
Non. » Je suis partie seule, je reviens seule. J'ai été prendre l'air dans le bois de Ville d'Avray. J'ai rencontré 2 jeunes gens, dont l'un est le secrétaire de Monsieur de Luynes, l'autre un ami de Voltaire. Ils m'ont trouvé mordant dans un poulet que je n'avais pas l'adresse de couper. Ils l'ont partagé avec moi, nous avons causé, nous avons ri, c'est tout.
Bien sûr ?
Très sûr.
Alors, rien ne vous empêche de venir souper chez moi avec Voltaire et d'Argental. C'est une petite partie d'intimité que je vous propose. Vous aimez aller voir, et je crois vous faire un vrai cadeau en vous en donnant l'occasion.
Un autre jour.
Non, ce soir.
Il faudrait m'habiller.
Au contraire, vous êtes charmante ainsi, et vous ferez un effet délicieux. Nous souperons au fond de mon jardin, dans le pavillon champêtre. Vous voilà parée en bergère, et il ne vous manque que la houlette et les moutons.
Et s'il vient du monde, répliquai-je à moitié vaincu.
Personne, on fermera la porte.
Et monsieur le régent?
Monsieur le régent, je ne le vois plus, je ne veux plus le voir, ne m'en parlez pas. C'est un homme sans foi. Je veux oublier ce que vous savez, ma reine, je m'étourdis.
Oh, je vous en supplie, ne me le rappelez pas.
Elle me pria, me conjura, je cédai et nous partîmes. Moi, en toilette de campagne, un peu chiffonnée par le dîner sur l'herbe et le carrosse, elle en déshabillée du matin. C'était du reste son triomphe. Elle était adorable au lit, en cornette et en petit manteau.